Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les vacances de février ont donc commencé et avec elles une relative période d'accalmie sur le front des événements musicaux. Comme je vous l'ai annoncé lors de notre précédent numéro, il y a cependant de belles soirées à venir, notamment au Théâtre du Capitole, où a lieu cette semaine la première représentation de Jules César, l'opéra de Georg Friedrich Händel. Pour vous présenter cette production, j'ai invité Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour les sites Actu Toulouse et Culture 31, ainsi que pour les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Également présent aujourd'hui, Serge Chauzy, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Tous les trois, nous avons le plaisir d'accueillir l'invité d'honneur de cette émission, l'altiste Carlos Vizcaíno, membre et administrateur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Nous allons nous plonger avec lui dans la programmation de l'orchestre pour les mois à venir. Pas de retour arrière cette semaine, nous enchaînons donc directement avec notre rubrique Agenda.
Mélomanie, l'agenda.
Bienvenue à vous trois et en particulier à Carlos Vizcaíno qui participe pour la première fois à Mélomanie dans l'agenda de la semaine. Il y a tout d'abord le concert que donne l'Orchestre National du Capitole jeudi 20 février à 20h à la Halle aux Grains. Le programme de cette soirée est assez particulier, entièrement constitué d'airs d'opéra de Mozart ou de suites symphoniques tirées d'opéra de Richard Strauss. C'est Tarmo Peltokoski qui devait le diriger, mais nous avons appris hier, Serge, que le jeune chef finlandais avait dû déclarer forfait pour cause de maladie.
Eh oui, même à 24 ans, on peut tomber malade.
En ce moment, il n'y a pas grand monde qui passe à travers.
Hein. Exactement. Donc Tarmo Peltokoski ne pourra pas assurer la direction de ce concert. Mais l'administration de l'Orchestre National du Capitole a réussi à inviter un chef allemand né à Karlsruhe en 1975 qui s'appelle Konstantin Trinks. Alors cela tombe bien, c'est un grand spécialiste de Mozart et de Strauss, donc tout va bien. C'est lui qui dirigera le programme et autre avantage pour sa venue, c'est que le programme reste complètement inchangé. Et la soliste, qui est la soprano australienne Siobhan Starek, ben sera de toute façon la soliste de ce concert. Donc tout va bien de ce côté-là, on aura le même programme avec la même soliste. Alors c'est quand même un programme particulier, hein, puisque associer Mozart et Richard Strauss, alors que plus d'un siècle les sépare, on pourrait se dire c'est un peu bizarre, mais non, pas du tout. Quand on connaît l'admiration que Strauss portait à Mozart, c'est un peu logique, hein. Et donc nous assisterons ce soir-là à un dialogue, en quelque sorte, entre les deux compositeurs. Alors, si l'un a eu une vie très brève, on sait que Mozart est mort à 35 ans, en 1791, Strauss, lui, est mort à 85 ans, en 1949. Donc, il y a une grande différence dans leur vie d'homme. Alors, le programme comporte deux parties. Au sein de chaque partie, c'est un dialogue entre Mozart et Strauss que l'on entend. La première partie, eh bien, s'ouvre sur des extraits des Noces de Figaro de Mozart, avec le livret de Lorenzo da Ponte, avec d'abord l'ouverture et ensuite deux airs, le Poggi Amor, les airs de la comtesse, hein, l'amour qui apporte du réconfort à mon chagrin, dit-elle, et puis le Dove Sono, l'autre grand air de la comtesse, avec le récitatif qui précède, et Susanna non vien, etc. Et puis, en regard, on entendra la suite orchestrale du Chevalier à la Rose, que Richard Strauss lui-même a composé et qui reprend les thèmes principaux de l'opéra. Ça commence par les premières notes de la partition et ça s'achève sur le sublime trio final entre la maréchale, Octaviane et Sophie. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie du concert, ben, elle commence aussi par Mozart avec deux extraits de la flûte enchantée. Tout d'abord, l'ouverture et puis ensuite, le grand air très nostalgique de Pamina, Ach, ich fühl's, c'est-à-dire je sens que tout est perdu, l'air de grand air de Pamina. Et puis, ça sera suivi d'un air du grand air aussi important de Così fan tutte, come scoglio, qui est là un air de résistance et d'énergie, comme un rocher, dit-elle. Hein. Fior di Ligi eh ben, sera chanté, comme toujours, par Siobhan Starek. Et ensuite, en regard là aussi, de Richard Strauss. Alors, c'est plus original, c'est la fantaisie symphonique de l'opéra La Femme sans ombre, qui est un opéra qui ne se joue pas si souvent, mais qui est un magnifique opéra, à la fois avec une atmosphère de conte oriental, une intrigue qui comprend des symboles ésotériques qui mêlent le monde des esprits et celui des hommes. Donc, c'est une belle fantaisie symphonique qui résume en quelque sorte en 20 minutes les passages les plus significatifs d'un opéra de 4 heures tout de même. La Femme sans ombre est un opéra long.
Oui, oui, absolument.
Donc voici le concert auquel nous aurons le bonheur d'assister.
C'est un très beau programme. Robert Penaver Schoenstag, vous la connaissez, cette colorature australienne âgée de 37 ans.
Oui, je la connais, mais je ne l'ai jamais entendue en direct, donc je la connais au travers des ondes, mais c'est extrêmement intéressant à entendre. Bon, je suis très heureux de l'entendre pour une fois en live, comme on dit aujourd'hui. Ce que je veux ajouter, c'est que, en fait, effectivement, Serge, tu as raison, La Femme sans ombre n'est pas donnée souvent. Je rappelle simplement qu'elle a été donnée il y a 2 ans au Théâtre du Capitole, mais en dehors de ça, je trouve que ce programme est particulièrement cohérent. Je ne sais pas.
Oui.
Qui l'a fait comme ça, mais particulièrement la deuxième partie, mettre en rapport la flûte enchantée, comme tu disais très justement, tous les symboles ésotériques qui sont, on le sait bien, derrière la flûte enchantée, et La Femme sans ombre.
La même chose dans La Femme sans ombre.
Et La Femme sans ombre. Je trouve ça particulièrement malin. Il fallait oser le faire. Ça.
Mais je pense que c'est Tarmo Peltokoski
qui a dû concevoir ce programme.
Qui a reçu le programme, oui.
Allez, on va lui en offrir le crédit, si vous voulez bien.
Oui. Voilà, exactement.
Malheureusement, il ne pourra pas diriger le programme qu'il a certainement conçu. Bon, on va lui souhaiter un prompt rétablissement, bien sûr, en espérant le revoir la semaine prochaine, parce que le 27 février,
une semaine après,
il doit diriger le concert, lors duquel l'orchestre national du Capitole va accompagner la violoncelliste Sol Gambetta. Donc on espère qu'il sera de retour. Ouais. En attendant, petit extrait du programme du concert du 20 février avec la valse rapide de la suite tirée du Chevalier à la Rose, l'opéra de Richard Strauss. C'est une version de l'orchestre national du Capitole dirigée par Leo Quokman. La valse rapide de la suite, le Chevalier à la Rose, tiré de l'opéra de Richard Strauss, joué ici par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Leo Quokman. C'est l'une des pièces au programme du concert donné par l'ensemble symphonique toulousain jeudi 20 février à 20h à la Halle aux Grains, sous la direction du chef allemand Konstantin Trinks, en remplacement de Tarmo Peltokoski. Nous allons poursuivre toujours avec l'art lyrique, mais dans sa période baroque, grâce à la nouvelle production à l'affiche de l'Opéra National du Capitole, du 21 février au 2 mars. Il s'agit donc de Jules César, l'opéra de Georg Friedrich Händel, donné lors de 5 représentations. Robert va tout nous dire de cette œuvre et de la version présentée au Capitole, d'autant plus qu'il semblerait que c'est une entrée au répertoire pour la scène lyrique toulousaine.
Exactement, c'est une entrée. J'ai eu beau me replonger dans les abîmes de ma documentation, je n'ai jamais trouvé trace de... Alors, ce n'est pas très étonnant, quand même, parce qu'en fait, Händel est revenu à la mode en 1922, avec Jules César d'ailleurs, mais enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Et ensuite, il y a eu toute la révolution baroque, qui a évidemment avait besoin de partitions, et Händel, en matière d'opéra en particulier, leur a offert vraiment un vrai trésor. Alors, Händel, c'est un musicien allemand, mais comme on dit souvent, le plus britannique des musiciens allemands.
Il est passé par l'Italie même. Oui.
Un grand voyageur. Et d'ailleurs, il a été naturalisé anglais. Et chaque fois que je suis à Londres, j'ai la chance d'y être assez souvent. Si je ne passe pas très loin de Westminster Abbey, évidemment, je vais jeter un petit coup d'œil sur sa tombe à l'intérieur, évidemment, de cette célèbre abbaye. Alors, Händel est né en 1685, il est décédé en 1759. Il a composé 39 opéras, il faut quand même le dire, dont 3 n'ont pas été écrits pour Londres. Tous les autres l'ont été pour des théâtres londoniens. C'est dire que l'opéra a été au cœur de son activité créatrice. Et quand on parle de Händel aujourd'hui, on parle surtout de ses opéras. Vers la fin de sa vie, effectivement, il s'est porté beaucoup plus vers le genre oratorio. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose qui commençait un peu à lui peser, c'était la structure de l'opéra seria avec les arias da capo obligatoires, etc., etc. Et tout le monde sait qu'il a composé un oratorio très célèbre qui s'appelle le Messie. Mais il n'a pas fait que celui-là, certains autres.
De toute façon, il était très prolifique de manière générale.
Et il a profité au travers de cette forme oratorio pour mettre en place une autre forme également vocale. Et donc c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'il s'est éloigné sur la fin de sa vie de la forme lyrique. Donc 39 opéras, et dans ces 39, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que Jules César est son chef-d'œuvre. Serge.
Sûrement, mais bon.
Tu veux dire par là que tu ne connais pas les autres?
Il y a d'autres opéras, ben, je ne les connais pas par cœur et je ne les ai pas tous entendus. Il y en a que je n'ai jamais entendu.
Ah, mais moi, c'est pareil.
Pour les 39,
Oui. Mais je ne sais pas qui connaît les 39.
C'est comme qui peut connaître tous les concertos pour violon de Vivaldi, quoi, si vous voulez, c'est un peu pareil.
Exactement.
Oui, je pense que c'est considéré comme.
C'est sans doute celui qui est le plus monté, je pense, clairement.
Oui, absolument. Et il va faire son entrée au Théâtre du Capitole pour la première fois, comme vous disiez, Eric. Et effectivement, c'est une entrée au répertoire.
C'est une grande entrée
au répertoire. C'est quand même l'un des sommets. Alors, c'est un peu ridicule de dire ça à chaque fois qu'on parle de la saison du Théâtre du Capitole. L'un des sommets, ça veut dire quoi? Il n'y a que des sommets. Donc,
cette année, tout est intéressant.
Comme les autres années.
En plus, cette année, c'est particulièrement varié, je trouve.
Oui. Absolument. Oui.
Particulièrement varié.
Voilà, parce que quand même, passer du Voyage d'automne, remarquable création mondiale, passer à Orphée aux Enfers, la mise en scène d'Olivier Py, c'était formidable. Et tout d'un coup, on va replonger dans l'antiquité égyptienne. Alors, bon, l'antiquité égyptienne, on va y revenir. Donc, c'est un des opéras italiens, bien sûr, puisque la plupart des opéras de Händel sont composés sur des livres en italien. C'est Giulio Cesare in Egitto. Cet opéra a été créé à Londres le 20 février 1724. Il y a donc pile 301 ans.
Voilà. Un an près, on va.
Voilà, à un an près, c'était le 300e anniversaire de la création, et même au jour près, presque. Et le livret d'un nommé Nicolas Francesco Haim, qui relate à peu près, pardon pour les historiens qui nous écoutent, mais il relate à peu de choses près, la visite de Jules César en Égypte en 48 avant Jésus-Christ. Alors, dans ce livret, il n'y a pas que la visite, on va dire, politique de Jules César, qui avait bien d'ambition. Il y a les amours de ce dernier, évidemment.
Avec Cléopâtre.
Avec Cléopâtre, bien sûr. En même temps, il y a la lutte de pouvoir qui était en train de se jouer à ce moment-là en Égypte,
entre Cléopâtre et Ptolémée.
Le frère et la sœur. Le frère et la sœur. Ptolémée, je crois que c'était le troisième des Ptolémées. On y croise également la figure absolument sublime dans cet opéra, du moins, de la veuve de Pompée qui vient d'être assassinée. On croise le fils de Pompée et de Cornélie qui s'appelle Sextus, et lui, il ne rêve que le jeune fils, enfin jeune, qui ne rêve que d'une chose, c'est de tuer l'assassin, évidemment, de son père, et puis deux ou trois autres personnages qui sont vraiment des comprimaries dans cet opéra. Cet opéra nous replonge normalement dans l'antiquité égyptienne, mais autant vous le dire, il se fait dans le cadre de cette entrée au répertoire dans une nouvelle production, une très importante coproduction, en définitive, entre l'opéra du Capitole, l'opéra de Rome, où d'ailleurs elle a été créée en 2022, l'opéra de Montpellier, le théâtre des Champs-Élysées et le théâtre de Leipzig. Voilà, je n'ai oublié personne en tant que coproducteur. Donc c'est une énorme machine qui a été mise entre les mains d'un metteur en scène, dramaturge italien, Damiano Micheletto, qui, pour la première fois, travaille au théâtre du Capitole. Hein. Alors autant vous dire qu'on ne va pas voir beaucoup de double couronne, de double empire, on ne va pas voir beaucoup de pchen, ni de pagne, ni d'éléphant, ni de... Voilà, ça va être tout autre chose. Ça va être un travail un peu plus, on va dire, actualisé, mais très très intéressant, vraiment. Je suis très impatient de le voir. Je l'ai vu, mais encore une fois, au travers de la télévision. Et je suis très impatient de le voir en direct sur la scène du Capitole. Alors, pour jouer ce genre de répertoire, il faut incontestablement, et quand on entend la richesse de cette partition et la difficulté d'interprétation, je pense en particulier au cors et au violon, bon, effectivement, il faut de grands spécialistes pour jouer ça. Et le Théâtre du Capitole a invité Christophe Rousset et ses talents lyriques pour le faire, qui l'ont déjà fait. Hein.
Oui,
Ils ont déjà fait cette production.
Oui, donc voilà, ce ne sera pas une première pour eux.
Voilà, ça ne sera pas une première fois pour eux dans cette production. Alors ensuite, restait à trouver une distribution, mais pour ça, on peut faire confiance à Christophe Gristi. Ben, il est allé puiser dans ce qu'il appelle dorénavant, depuis quelques années, sa famille.
Oui.
Alors, autant vous le dire, il y a eu quelques bouleversements dans cette distribution. Alors, le premier bouleversement est venu de Jules César lui-même, qui devait être interprété par Elisabeth de Schonk, qui elle s'est, alors je ne peux pas vous en dire davantage, retirée de la production il y a maintenant 3 semaines. Et donc, il fallait trouver un autre Jules César. Et Christophe Gristi a eu l'idée de faire monter dans cette distribution la mezzo contralto qu'il avait engagée pour chanter Cornelia. Et en fait, c'est carrément la même tessiture.
Oui.
Donc ça, je trouve ça extrêmement malin. Donc c'est Rose Naga Tremblay, qui est une contralto, mezzo contralto québécoise, qui a eu 3 semaines pour apprendre le rôle de Jules César. Autant vous dire que quand on regarde la partition originale, qui, il faut le savoir, a été maintes et maintes fois reprise par Handel lui-même, mais la partition originale dure près de 4 heures. Donc, cette partition originale n'est jamais donnée aujourd'hui, même dans les enregistrements qui se veulent les plus informés, historisés. Donc aujourd'hui, il y a une version communément admise qui fait entre 3h15 et 3h30. C'est l'une de celles-là qui va être donnée au Théâtre du Capitole dans cette production. Il n'empêche que sur la partition d'origine, par exemple pour le rôle de Cléopâtre, compte 8 airs. Et puis c'est les airs fait récitatif, les airs plus les reprises d'Acapo, etc.
Ça n'en finit plus.
Donc et puis les airs sont très difficiles à chanter. Enfin, c'est infernal. Donc c'est Rose Naga Tremblay dans tous les cas qui chantera Jules César. Alors on me dit, oui, c'est un contralto, Jules César, jusqu'à preuve du contraire, c'était un homme. Mais ça, c'est les traces d'une très ancienne tradition qui remonte à la création, puisqu'à la création, les rôles masculins étaient chantés par des castrats. Voilà.
Et il n'y a plus de castrats.
Fort heureusement.
Dieu merci.
Fort heureusement, il n'y a plus de castrats. Donc, très souvent, ce sont les contre-ténors qui ont pris la place. Voilà. Mais Encore plus souvent, je pense, ce sont les mezzos qui ont pris la place pour retrouver ce timbre, cette souplesse d'émission, etc. Alors, Rose Nagard-Tremblay, c'est une ancienne de la maison. Elle faisait la voix d'en haut lors des dernières reprises de La Femme sans ombre.
Justement,
c'est récent.
Voilà. Et c'est récent, c'est en 2024.
Oui.
Alors, c'est un petit rôle, évidemment. Hein. Donc, première partie de la famille. Deuxième partie de la famille, notre dernière Traviata. Claudia Pavone, qui a été notre dernière Traviata, et quelle Traviata, en 2023. Ensuite, il y a toute une rafale, de contre-ténors, dont William Shelton. Alors, William Shelton, vous vous souvenez,
un autre
membre de la famille, il chantait dans Voyage d'automne,
un
rôle très exposé d'ailleurs, hein. Et il chantera Nireno, qui fait partie de ses rôles un peu secondaires, mais très importants au point de vue dramatique. Et Sesto est chanté par un autre contre-ténor qui s'appelle Cameron Murray. Il a chanté dans un oratorio de Noël sous la direction de Jordi Savall au Capitole. C'est encore un membre de la famille. Cornelia, à partir du moment où Rose Nagard-Tremblay montait au niveau de Jules César, il fallait une Cornelia. Et Cornelia, eh bien, il l'avait un peu, entre guillemets, sous la main, puisqu'en fait, c'est la mezzo Irina Sherazadishvili.
Géorgienne, a priori.
Oui. voilà. Elle, c'est notre dernière Fenena dans le dernier Nabucco. Voilà. Et moi, elle m'avait extrêmement impressionné.
Je crois que vous en avez parlé.
Oui, parce que Fenena, en principe, c'est pas un rôle, je veux dire, mais lorsqu'on entend cette mezzo, Irina Sherazadishvili, on se dit, oulala, effectivement, c'est un rôle magnifique. Encore un autre membre de la famille. Et après, il y a quand même des nouveaux venus sur notre scène. Il y a un baryton barcelonais que moi, je ne connais pas, qui s'appelle Joan Martín Royo.
Et Carlos ne le connaît pas non plus, non. Semble-t-il.
Voilà, je ne le connais pas.
Mais Rose Nagard, on la connaît très très bien, parce qu'on a fait un enregistrement avec elle, Rose Nagard-Tremblay.
Avec l'orchestre de
chambre. Avec l'orchestre de chambre, là. C'est le mois dernier. Et c'était sur Handel aussi. Donc elle a chanté des arias de Cornelia. Pendant cette période, elle a reçu l'appel pour changer de rôle. Donc elle a dit, elle était complètement stressée.
Voilà.
Mais c'est une chanteuse magnifique.
Elle est presque toulousaine maintenant. Nagard-Tremblay.
Absolument. Donc, Joan Martín Royo, pardon pour l'accent.
C'est bien.
Chante Aquila, qui est vraiment le méchant de l'histoire. Et le contre-ténor Nils Wanderer, qui vient pour la première fois également, chantera lui un énorme rôle, qui est celui de Ptolémée, hein, qui finit mal aussi. Voilà. Mais ça, c'est l'histoire qui le dit également. Et puis, il y a un Français. Le seul Français de l'étape, c'est un jeune baryton qui n'est même pas trentenaire, que je vais découvrir, mais avec beaucoup, beaucoup d'impatience également, qui s'appelle Adrien Fournaison.
Qui chante dans la saison de François Henri, notre invité de la semaine dernière.
Ah, mais oui, exactement. Oui, absolument.
Et accompagné par Anne de Bozec.
Voilà, très bien.
Et voilà, il nous chantera du lead des leaders au mois d'avril.
Super. Tout ça pour dire que vraiment, c'est une entrée au répertoire qui est particulièrement excitante.
Avec
mais vraiment
une distribution
excitante.
Très soignée et beaucoup de découvertes à faire, beaucoup de redécouvertes, des prises de rôle. Donc, on va se régaler. Puis, les talents lyriques dans la fosse.
Voilà, alors, il faut bien préciser que les représentations du soir sont à 19h.
19h, absolument.
Voilà.
Parce que c'est long. Donc, pour reprendre le métro après à minuit, il faut commencer à 19h, puisque entre actes compris, c'est 3h50. Hein, l'a annoncé, 3h30 à peu près donc,
de spectacle.
Et entre actes, ça fait 3h50 en tout. On va se mettre dans l'ambiance musicale de l'opéra de Georg Friedrich Händel. Nous allons écouter l'ouverture de Jules César. C'est une version du concert d'Astrée dirigée par sa fondatrice, Emmanuelle Haïm.
Thank you.
l'ouverture de Jules César, interprétée par le Concert d'Astrée sous la direction d'Emmanuel Haïm. L'opéra de Händel est donc à l'affiche du Théâtre du Capitole du 21 février au 2 mars à l'occasion de 5 représentations. Avec les talents lyriques dans la fosse, vous noterez que les représentations en soirée commencent à 19h. Nous restons au Théâtre du Capitole pour annoncer le récital qui donne la soprano Véronique Jans le mercredi 26 février à 20h, accompagnée par le pianiste Christophe Magnien. Elle va chanter La Voix humaine, le chef-d'œuvre de Francis Poulenc, composé sur le fameux monologue éponyme de Jean Cocteau. Ça, c'est une soirée à ne pas rater non plus, Robert.
Pardon, je ne voudrais pas vous reprendre, Eric, mais ce n'est pas un récital. Hein, que,
oui, c'est vrai, ce n'est pas un récital, vous avez raison.
Non, c'est pas
une œuvre à part entière.
C'est une œuvre à part entière.
Et c'est pas une suite de, voilà, de pièces de différents compositeurs.
Voilà. Et c'est une pièce ô combien magnifique, bouleversante, qui met en scène une seule personne, un seul personnage qui s'appelle Elle, tout simplement. Donc vous avez commencé à en parler, c'est Cocteau, Poulenc qui sont derrière cet ouvrage qui dure 40 minutes, je pense.
Oui, c'est ça, c'est trois quarts d'heure à peu
pas
près.
Plus. C'est l'histoire d'une femme, elle donc, qui a son ancien amant au téléphone et qui est cet homme-là, qu'on n'entendra jamais, est en train de lui annoncer qu'il va se marier. Alors nous le savons parce que c'est écrit comme ça, mais évidemment, elle lui répond, elle lui dit tout son amour. Mais elle n'est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas larmoyant, mais c'est très digne. Tous les mots qui sont dans cet opéra sont le signe d'une rupture amoureuse, mais qui sont très dignes. C'est ça, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Mais il n'empêche qu'en 40 minutes, il faut faire passer beaucoup d'affect.
Voilà.
Et je crois qu'en invitant Véronique Jans, aujourd'hui, nous tenons vraiment dans ce rôle-là d'elle.
L'interprète,
nous tenons l'interprète idéale qui peut succéder à la créatrice Denise Duval. Tu me disais, Serge, que tu l'avais entendue.
Oui, je l'ai entendue sur la scène du Capitole.
Mais pas dans La Voix humaine.
Si.
Ah, c'était dans La Voix humaine.
La Voix humaine couplée à l'heure espagnole de Ravel, dans la même soirée.
Oui.
C'était incroyable.
Oui,
incroyable.
On l'avait créé en 1959.
Oui, c'est un peu plus tard quand même.
Oui, je sais pas ce que je voulais dire. C'était à Paris.
En fait, oui, ça a été créé à l'Opéra Comique à Paris, sous la direction de Georges Prêtre. Alors, je ne sais pas trop si le fait que c'était sous la direction de Georges Prêtre ou quoi, mais avant la création, il y a eu des rumeurs comme quoi le rôle devait être confié à Callas.
Ah.
Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec Georges Prêtre, bien sûr.
Chef préféré de la Callas, je le précise pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi le lien entre Callas et Georges Prêtre.
En fait, le directeur parisien des éditions Rigordi, qui a édité cette partition, qui s'appelait Hervé Dugardin, c'est lui qui a poussé Poulenc à écrire un autre opéra, vu le succès du Dialogue des Carmélites. Et cet homme-là aussi l'a dit. Il a écrit, il imaginait Callas. Alors, je ne sais pas trop, entre Dugardin et Prêtre, je ne sais pas que.
Ça aurait sans doute été
il n'empêche que Poulenc a dit non. C'est je veux ma Denise, comme il l'appelait.
Ah oui.
Ma Denise, voilà.
C'était sa grande copine.
C'était sa grande amie, voilà. Puis, en fait, il avait écrit pour elle, quand même, n'oublions pas, le rôle de Thérèse dans Les Mamelles de Tirésias.
Oui.
Hein, il a écrit, évidemment, La Dame de Monte Carlo, un peu plus tard, en 1961. Et puis, évidemment, Blanche de la Force, bien sûr.
Oui.
Voilà.
Pour Dialogue des Carmélites, nous allons justement entendre Véronique Jans, parce qu'elle a enregistré La Voix humaine avec l'Orchestre National de Lille, si je ne me trompe pas. Ça va nous permettre d'en écouter un extrait. Elle chante ici le 11e monologue. Allô, allô, mademoiselle, on m'a coupé.
Allô ? Allô, mademoiselle ? Allô ? Mademoiselle, on coupe ! C'est toi ! Mais non, mademoiselle, on m'a coupé. Je ne sais pas, c'est-à-dire... Si, attendez, Auteuil 04,7. Allô ? Pas libre ! Allô, mademoiselle ? Il me redemande. «
Véronique Jans chantait ici « Allô, allô, mademoiselle, on m'a coupé », 11e monologue de la voix humaine de Francis Poulenc, une œuvre magistrale qu'elle donne donc le mercredi 26 février à 20h au Théâtre du Capitole, accompagnée par le pianiste Christophe Magnien. Voilà pour cette longue partie lyrique de notre rubrique Agenda. Place maintenant à la musique instrumentale avec notre invité du jour, l'altiste Carlos Vizcaíno, membre et administrateur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, dont nous allons présenter les concerts du printemps, ceux programmés entre les mois de mars et de juin à Saint-Pierre-des-Cuisines à Toulouse et à l'Escale de Tournefeuille. Avant ça, je voulais vous demander, Carlos, des nouvelles de Gilles Colliard, le directeur artistique de l'Orchestre de Chambre. On sait qu'il a eu des soucis de santé qui l'empêchent de jouer aujourd'hui. Comment va-t-il ?
Effectivement, Gilles, il est en arrêt depuis ça fait bientôt un an, qu'il n'est plus à l'orchestre avec nous, malheureusement, parce qu'il se soigne là, de ce problème de santé. Voilà, il se récupère petit à petit et c'est lent, mais bon, je sais qu'il pense beaucoup aux abonnés, il a envie de revenir sur scène.
Mais j'espère que ce sera possible, on l'espère tous. Mmh. Il manque à ceux qui suivent l'orchestre de chambre depuis longtemps, parce que c'est un très grand musicien, grand violoniste, mais c'est aussi un arrangeur et un compositeur, On a entendu des œuvres de Gilles Colliard ou des arrangements de Gilles Colliard. Hein.
Son arrangement de la Symphonie du Nouveau Monde, c'était incroyable. Oui, vraiment. Très intéressant.
Ouais, et son arrangement de concerto de Liszt pour piano, que Martha Argerich adore. Et qu'elle joue souvent avec la Cremerata.
Ah oui.
C'est vraiment un très bon arrangeur.
Belle référence.
En tout cas, on le salue et on espère vraiment le revoir sur scène. La suite de l'actuelle saison de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, c'est pour bientôt, les lundis 3 et mardi 4 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines et les mardis 11 et mercredi 12 à l'Escale de Tournefeuille. Ces quatre concerts commencent tous à 20h30, c'est toujours à 20h30. Et vous avez choisi, pour ceux du mois de mars, de rendre hommage à trois compositeurs à la charnière de deux périodes. Il y a Mozart, un des phares de la période classique, Beethoven qui ferme la période classique et qui préfigure la période romantique, il y a Mendelssohn, un de ceux qui ouvre la période romantique. Est-ce que c'est ça l'idée, montrer comment le classique bascule petit à petit vers le romantisme?
Voilà, exactement, c'était tout à fait l'idée qu'on avait imaginé avec ces programmes. Donc voilà, commencer par Mozart et après faire un arrangement de la symphonie héroïque de Beethoven pour cordes. On a déjà fait l'année dernière la symphonie numéro 5 de Beethoven aussi, et arrangée pour cordes, et c'est vrai que ça marchait super bien. Et on a trouvé aussi la même personne qui a fait cet arrangement, la symphonie héroïque, qu'on a souhaité présenter ici. Et pour finir, on interprétera la symphonie numéro 10 de Mendelssohn, c'est une symphonie pour cordes de jeunesse de Mendelssohn, mais c'était un génie. Il avait 12 ans quand il avait fait cette symphonie, c'est vraiment une chose incroyable.
Un de ses génies parti trop tôt, malheureusement, parce qu'il est mort à l'âge de 38 ans. Mais il a quand même laissé notamment des symphonies absolument superbes.
Il n'a écrit que des œuvres de jeunesse, en fait.
Oui.
C'est incroyable.
Au moment où il arrivait dans la maturité.
Voilà. Et pour ce programme, on aura la chance d'avoir Lina Tour, qui c'est le premier violon du Concert des Nations de Jordi Savall. Donc, c'est une spécialiste de ces programmes.
Lina Tour Bonnet,
exactement. Ouais. Et qui est actuellement professeur à la Musikhochschule
à Weimar.
Exactement. Ouais. C'est vraiment une musicienne exceptionnelle et spécialiste du répertoire classique, début de romantisme.
Et il y aura une pièce de Mozart, donc, le Divertimento K136, que vous avez déjà joué à de nombreuses reprises.
Oui, on le connaît bien, c'est une des pièces préférées aussi de l'orchestre aussi.
Eh bien, c'est justement cette œuvre que nous allons écouter pour illustrer le programme de ce concert des 3, 4, 11 et 12 mars. Le premier mouvement Allegro, le voici dans une version enregistrée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse à l'époque de son fondateur Louis Oriacombe.
Thank you.
Le premier mouvement allegro du Divertimento K136 de Mozart, interprété par l'Orchestre de Chambre de Toulouse sous la direction de Louis Auriacombe. C'est une des œuvres au programme des concerts que vous donnez les lundis 3 et mardi 4 mars à Saint-Pierre-des-Cuisines et les mardis 11 et mercredi 12 à l'escale de Tournefeuille, donc à 20h30. Le mois suivant, les concerts ont lieu les lundis 7 et mardi 8 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines et les mardis 29 et mercredi 30 à l'escale de Tournefeuille, toujours à 20h30. Là, on va changer de registre, hein, puisqu'ils sont dédiés à Tchaïkovski, Souk, Nielsen et Saint-Saëns. Et là, il n'y a pas de soliste. Hein.
Alors, il y a une petite surprise qui remplace Gilles, et c'est l'invitation de Manon Galli, qui va faire violon solo et direction.
Et c'est vrai, elle a joué avec vous au Festival de Toulouse.
Exactement, qu'on a connu.
Et que... ça lui a plu, apparemment.
Oui, ouais, c'était super bien. On a rejoué avec elle dans notre festival, et on est encore des choses ensemble là. Et on a décidé de l'inviter pour remplacer Gilles pour ce programme, parce qu'en fait, surtout dans la pièce de Saint-Saëns, Le Déluge, il y a un solo de violon magnifique qu'il va interpréter magnifiquement bien. Et là, voilà, exactement pour ce programme-là, ce mois-ci, avril, on a souhaité rendre hommage à la musique romantique et avec des pièces pas tout à fait très, très connues, comme Nielsen, La Sérénade du Souk, mais que c'est vraiment des pièces sublimes.
Oui, alors donc il y a la Fantaisie ouverture Roméo et Juliette de Tchaïkovski, donc la petite suite opus 1 de Carl Nielsen.
Exactement.
Saint-Saëns, donc le prélude de son oratorio Le Déluge, la Sarabande, la Tarentelle en la mineur avec un arrangement de Gilles Colliard, et puis donc ce Joseph Souk, alors c'est le moins connu évidemment de la bande, sauf que il était l'élève de Dvorak, mais en plus il est devenu le gendre de Dvorak.
Exactement. C'était un grand musicien.
Un grand musicien. Joseph Souk. Ah oui, génial. Et cette sérénade pour cordes, c'est vraiment un bijou. Malheureusement, ça ne se joue pas souvent, mais c'est...
Eh bien là, ce sera l'occasion de découvrir. Et donc, vous aurez Manon Galli en soliste invité.
Exactement.
Donc, ça va être vraiment une production 100% toulousaine. Manon Galli, formée au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et bien, pour illustrer ce programme des concerts du mois d'avril, je vous propose d'écouter justement le prélude de l'oratorio Le Déluge, composé par Camille Saint-Saëns. Cette fois-ci, il s'agit d'un enregistrement réalisé par l'Orchestre de chambre de Toulouse, mais sous la direction d'Alain Moglia. Thank you. prélude de l'oratorio Le Déluge, composé par Camille Saint-Saëns dans une version de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, dirigée ici par Alain Moglia. Cette pièce autoprogramme des concerts des lundis 7 et mardi 8 avril à Saint-Pierre-des-Cuisines et des mardis 29 et mercredi 30 à l'escale de Tournefeuille. Nous voici donc arrivés en mai, où vous avez programmé vos concerts mensuels les lundis 5 et mardi 6 à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis les mardis 27 et mercredi 28 à l'escale de Tournefeuille. Ils sont sous-titrés Vivaldi et la mandoline, et nous allons avoir le plaisir d'y retrouver et d'y entendre un musicien qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup à Mélomanie, le mandoliniste Julien Martineau, avec qui vous avez déjà joué. Hein.
Oui, c'est un très cher ami de l'orchestre et personnel aussi, et une personnalité qu'on adore. Et donc là, on a souhaité faire un hommage à la mandoline avec Julien, et voilà, et un programme italien.
Oui, alors ça va surprendre personne. C'est un programme très baroque italien, et pas seulement parce qu'il y a du Vivaldi, il y a d'autres compositeurs.
Exactement. Il y a du Vivaldi, il y a Della Bacco, il y a aussi Charles Savison, un compositeur anglais qui fait un arrangement des sonates de Scarlatti. Donc voilà, il a étudié avec des maîtres italiens à l'époque, donc il compose dans un style italien.
Voilà, Evaristo Della Bacco, Domenico Caodioso, alors c'est pas les compositeurs les plus connus de la période. Et puis, il y aura donc de nombreux concertos d'Antonio Vivaldi, le concerto grosso alla rustica. Alors ça, c'est aussi une œuvre que vous avez au répertoire depuis longtemps,
hein, il me semble. Hein. Mm-hmm.
Le concerto grosso Hervé 158. Et puis, le fameux concerto pour mandoline composé pour le luth à la base, le Hervé 93, que Julien Martineau avait enregistré il y a 7 ou 8 ans maintenant, avec l'ensemble Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini. Et pour le plaisir, parce que c'est un petit bijou, nous allons écouter le deuxième mouvement, l'Argo, de ce concerto pour mandoline en ré majeur Hervé 93 de Vivaldi, dans la version enregistrée par Julien Martineau en 2018, avec l'ensemble Concerto Italiano sous la direction de Rinaldo Alessandrini. Le deuxième mouvement, l'Argo du concerto pour mandoline en ré majeur Hervé 93 d'Antonio Vivaldi, dans la version enregistrée par Julien Martineau avec l'ensemble Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini, un CD paru sous le label Naïve en 2018. Je rappelle que les concerts de Julien Martineau avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse ont lieu les lundis 5 et mardi 6 mai à Saint-Pierre-des-Cuisines, puis les mardis 27 et mercredi 28 à l'escale de Tournefeuille, dernier concert mensuel de la saison, mardi 3 et mercredi 4 juin à l'escale de Tournefeuille. Vous inversez cette fois-ci, vous commencez à l'escale. Puis le jeudi 26 et vendredi 27 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et vous y proposez votre fameuse formule du concert à la criée. C'est-à-dire que vous présentez une liste d'œuvres sous forme de menu. Et c'est le public qui choisit celle qu'il veut vous entendre jouer. Et ça se fait à main levée, c'est comme ça?
En principe, il faut crier.
Il faut crier.
Oui. Mais après, c'est vrai qu'on est sur scène, ça devient tellement incompréhensible qu'il faut faire un main levée pour...
Voilà, mettre un peu d'ordre quand même.
Oui. Nous, on s'amuse beaucoup sur scène et le public aussi. Et en venant à ces concerts, c'est un concert hyper original et qu'on prend beaucoup de plaisir à faire, nous.
Alors, vous offrez quand même l'amuse-bouche. Là, il n'y a pas de choix.
Il n'y a pas de choix.
L'amuse-bouche, c'est Divertimento, pas le 436, le 437, le deuxième mouvement de Mozart.
Ouais.
Et puis après, entrée, plat, dessert, il y a du choix à chaque fois.
Il faut
choisir deux entrées, deux plats et deux desserts.
C'est
et deux fromages, pardon. Il y a le fromage.
Oui, le fromage.
Le fromage. Le dessert, c'est la surprise du chef.
Et des fois, la surprise du chef, on fait même participer le public. Il y a plein de surprises.
Ah, donc le public va chanter, pas jouer quand même.
Peut-être. Plein de surprises.
D'accord. Alors, il y a vraiment de tout, parce que je regarde les entrées. Il y a du Purcell, du Vivaldi, du Destouches, du Haydn ou du Dvorak. Donc, il y a cinq propositions, il faut en choisir deux. Les plats, il y a Mozart, la symphonie, la 40e. Il y a la symphonie numéro 10 de Mendelssohn, dont vous avez parlé. La suite Holberg de Grieg. Il y a du Tourigna, la Simple Symphonie de Britten. Et la suite Saint-Paul de Gustav Holst. Mm-hmm. Alors, c'est très varié en plus. Là aussi, il faut choisir deux plats parmi les six. Et puis les fromages, alors il faut choisir deux, il y en a quatre qui sont proposés.
C'est vrai que les plats sont généreux, ouais. Les personnes ne seront pas affamées à la fin du concert.
Ouais, les portions aussi sont généreuses.
Donc du Marin Marais, du Schubert, du Dvorak encore, ou la fameuse Pizzicato Polka de Strauss. Donc il faut choisir dans tout ça et ce sera au mois de juin. Alors moi-même, je ne sais que choisir moi là-dedans. Je ne sais pas si vous avez quoi choisir. Moi, je vais quand même vous donner un petit aperçu du menu de ces concerts à la criée du mois de juin avec cet extrait de la Simple Symphony de Benjamin Britten. C'est une version récente cette fois-ci. Ce n'est pas l'époque Oriacombe, ce n'est pas l'époque Moglia, c'est l'époque d'aujourd'hui de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. La Simple Symphony de Benjamin Britten dans une version toute récente de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, un extrait du copieux menu des concerts à la criée que vous proposez les mardis 3 et mercredi 4 juin à l'escale de Tournefeuille, puis les jeudis 26 et vendredi 27 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ces quatre concerts commencent à 20h30 comme tous ceux que nous avons annoncés et présentés précédemment en mars, en avril et en mai. Je vous invite à réserver et à acheter vos places en ligne à l'adresse www.orchestredechambredetoulouse.fr. D'autre part, je signale de nouveau le concert que donne l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, ce jeudi 20 février à 20h. Dirigé par Constantin Trinks, l'ensemble symphonique toulousain propose un programme d'air d'opéra de Mozart avec la soprano australienne Shoeban Stagg, ainsi que des suites symphoniques tirées d'opéra de Richard Strauss. La billetterie est en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Et puis je rappelle que la nouvelle production de Jules César, l'opéra de Georg Friedrich Händel, est à l'affiche du Théâtre du Capitole pour 5 représentations du 21 février au 2 mars. Au même endroit, la soprano Véronique Jans interprète la voix humaine de Francis Poulenc le mercredi 26 février à 20h. Pour ces deux événements, vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy et Robert Pénavert qui m'ont grandement assisté dans l'animation de cette émission. Merci à Carlos Vizcaino d'être venu nous présenter la suite de l'actuelle saison de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Je n'oublie pas de remercier aussi Christophe Aubry, le réalisateur de ce numéro. Podcast disponible et téléchargeable dès maintenant sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin aux fidèles comme aux nouveaux auditeurs de Mélomanie. Excellente semaine musicale à tous.